C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Annie Pelletier, vous connaissez très bien, ex-plongeuse qui a eu des succès incroyables, a témoigné sur Facebook la semaine dernière des derniers moments, les derniers mois, dernières années, qui ont été particulièrement difficiles. Donc, elle a partagé avec les gens ce qu'elle a vécu, tant sur le plan de la santé physique que de la santé mentale. Elle est avec nous ce matin. Annie Pelletier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, première question, avant qu'on plonge pour vrai, là, sans jeu de mots. Pourquoi vous avez décidé de partager ces moments-là qui n'ont pas été faciles pour vous là, dans les derniers temps?
Parce que quand j'étais dans la tourmente, justement, je me disais que, vous savez, on parle beaucoup du système de santé, on parle des failles du système de santé, mais à l'intérieur de ce système-là, il y a des êtres humains extraordinaires, des professionnels au Québec extraordinaires, que j'ai eu la chance de rencontrer, de consulter, d'aller chercher leur expertise, de tendre la main à eux. Et pendant que j'étais dans la tourmente, je me sentais tellement privilégiée de pouvoir avoir cette équipe-là autour de moi que je me disais, la journée que je vais sortir la tête de l'eau, là, il faut que je le dise, il faut que je reconnaisse ces gens-là publiquement. Je voulais leur faire une fleur, je voulais les remercier publiquement, tout simplement. Puis aussi, en même temps, de dire aux gens, moi, je me sens pas comme une championne olympique ou je suis madame tout le monde. Alors, j'ai mes failles, j'ai mes faiblesses et j'ai, comme je disais un peu plus tôt, à micro fermé, j'ai avalé plusieurs gorgées d'eau dans les derniers mois, les dernières années. Et là, maintenant, ça va bien. Donc, j'ai voulu peut-être inspirer en quelque part les gens de dire, moi, je m'en suis sortie, vous êtes capable, tendez la main. Tendez la main. Il y a des gens autour de vous. Et ce que j'ai le goût de dire aussi aux autres, aux gens, à tout le monde dans le fond, ouvrez les yeux, les oreilles. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vivent des épreuves, ils ont l'air sans faille, ont l'air indestructibles, mais dans le fond, si vous grattez un peu, si vous tendez l'oreille, vous allez peut-être voir que ces gens-là vivent des moments difficiles et d'avoir une présence pour eux. Et moi, j'ai eu cette présence-là de mes amis, de mon entourage et des professionnels de la santé.
Cette période sombre a commencé comment?
A commencé d'abord la perte de mes deux parents. Mon père est décédé en 2016. Il avait demandé l'aide médicale à mourir. Il était dans les premiers à le recevoir. Donc, j'ai trouvé cette épreuve quand même assez difficile parce que j'ai eu de la difficulté à me préparer à ça. Quand on sait la date et l'heure du décès de son propre père, il n'y avait pas encore de littérature qui exprimait. Il n'y avait pas beaucoup de témoignages à cet effet-là. Donc, pour moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'anxiété à ce moment-là. J'ai été libérée quand lui, il a été libéré de ses souffrances. Là, il y avait un cancer du poumon. Donc, j'ai été libérée. Et ensuite de ça, mon petit garçon avait 10 mois à l'époque. Et ma mère était toujours vivante. Et donc, je suis restée forte pour eux. Hein? Je suis restée la fille souriante. Puis, je sais que mon père, c'est ça qu'il aurait voulu. J'ai accompagné ma mère dans son deuil. 56 ans de mariage. Ça a été très difficile pour elle. Et 5 mois plus tard, c'est elle qui est tombée malade. Donc, pneumonie. On lui a donné un diagnostic de cancer du poumon également, différent, à progression lente, mais avec un emphysème très sévère. Elle a commencé à être sur support d'oxygène quelques mois plus tard. Elle était comme à 10 heures au début, 12 heures, 14 heures, et jusqu'à 24 heures sur 24. Ensuite de ça, 2017-2018, donc proche aidante pour ma mère, mais quand même, elle allait quand même bien. 2019, je me suis séparée. Ça arrive à quasiment un couple sur deux au Québec, donc je me suis séparée. Ensuite, un déménagement. Et là, ma mère est tombée de plus en plus malade. La COVID est arrivée. Et ma mère avait tellement peur, parce qu'elle était tellement vulnérable à attraper la COVID. Si elle attrapait la COVID, c'était terminé. Là, en 2 jours, c'était fini. Donc, elle hésitait à nous voir. Elle était très, très isolée. Je l'ai vue dépérir de mes yeux vus à tous les mois, la perte de poids. Elle hésitait à me voir. Puis là, je lui disais, je vais mettre 2 masques, la visière, je vais rester dans le salon, mais il faut que je puisse t'accompagner là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Elle hésitait à voir mon enfant aussi, mon petit garçon qui était à l'époque à la garderie et en maternelle, parce que lui ne mettait pas de masque. Donc là, il y a eu vraiment un isolement. Je me suis sentie très impuissante. Beaucoup, beaucoup d'anxiété de la voir dépérir. Donc. Et ensuite de ça, 2022, la dernière année a été très difficile, là, 2021 à 2022. Elle est décédée il y a un an à peine, et des poussières, 18 juillet 2022. Elle voulait pas aller à l'hôpital, donc elle a agonisé, dans le fond, chez elle la dernière année. ça a été très difficile. Donc, c'est tout le stress. J'ai un frère qui est déficient intellectuel aussi, qui est placé en résidence. Il était en ressources familiales pendant 22 ans. Et au même moment que ma mère a décédé, ça faisait 3 semaines qu'on venait de le changer de résidence, en résidence intermédiaire, avec 7 autres patients beaucoup plus lourdement handicapés que lui. La transition a été difficile. Je suis devenue sa tutrice officielle. Donc, c'est une suite d'épreuves.
Ça fait beaucoup de choses en peu de temps, là.
Oui, beaucoup de choses en peu de temps. Puis, je réussissais toujours avec le sport, avec les bonnes citations, après la pluie, le beau temps, je me ralliais à ça. Mais à un moment donné, je pense que ça a été trop. J'ai commencé à avaler 1 gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées d'eau. Puis, à me dévouer à mon travail aussi. J'adorais mon travail à la Fondation de l'athlète d'excellence, qui est maintenant la Fondation Aléo. Alors, après le décès de ma mère, je suis retournée au bureau après 4 semaines. 4 semaines pour faire un deuil, là, ben, c'est impossible, évidemment, il faut le poursuivre. Mais j'avais tellement de travail que j'ai laissé ça de côté. Je me suis plongée dans le travail. Changement d'image de marque de cette fondation-là, pour laquelle j'ai travaillé pendant 18 ans. J'étais très passionnée de mon travail. Et donc, je me suis oubliée. Vécu des choses difficiles par rapport au deuil. La santé mentale commençait à prendre le bord. Difficulté à dormir. Ça, c'est ça quand on commence à ne plus pouvoir dormir. Là, c'est une roue sans fin parce que là, tu dors pas, t'es fatigué.
Je vais faire une parenthèse qui est importante parce que on a toujours, puis je vous ai dit tantôt, vous avez du courage d'en parler, vous m'avez dit, j'ai pas de courage, je suis comme tout le monde. On a une image, une perception des athlètes de haut calibre qui sont habitués à l'adversité, à la compétition, à la pression, à être formés pour ça, puis à pas trop parler d'enjeux comme ce dont on discute ce matin. Exact. Or, dans les dernières années, on l'a vu au tennis, on l'a vu chez le Canadien, on hésite moins à en parler.
C'est peut-être pour ça que j'en ai parlé. C'est peut-être parce que j'ai vu que le tabou commençait déjà à être déboulonné, que je me suis dit... j'ai pas trop réfléchi. Hein. C'était vraiment un geste très spontané, puis vraiment un élan du cœur. J'ai eu le goût de dire aux gens que j'allais mieux, au lieu d'écrire à chacun qui m'avait écrit, à qui j'ai pas répondu toujours pendant à partir du mois de décembre. À partir du 1er décembre, je peux dire que j'ai vraiment eu un spin-off là en français, donc peut-être une chute vers le bas. Là, un plongeon sans trop d'eau dans le fond de la piscine. Et j'ai eu une chirurgie à la gorge aussi, donc le 6 décembre. Une très, très, très douloureuse, c'est plate à dire, mais c'est ça, j'ai été sur la morphine longtemps. Donc ça m'a fatiguée. Ensuite de ça, première fête, 22 ans, mais 49 ans, sans mes deux parents. Après ça, le temps des fêtes aussi. Monoparental, t'as toujours une journée que t'as pas ton fils, c'est le 24 ou le 25. Donc là, mon moral en a pris un coup. Et ensuite de ça, janvier, février, mars, avril, ça a été très, très, très difficile.
Quand vous dites difficile, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on dort pas, qu'on mange pas, qu'on a... beaucoup de difficultés mes idées étaient pas claires, pas capable de réfléchir, pas capable de prendre de décisions, avoir besoin du soutien des autres, avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe, d'avoir besoin de parler à mon psychologue pour avoir une humeur. J'ai commencé la médication aussi, ce que j'avais toujours refusé. Moi, depuis, même quand j'étais athlète, j'ai toujours refusé de voir un psychologue. Mais ça venait de mes parents. Mes parents, ils disaient, t'as pas besoin de ça, t'es assez forte mentalement, sers-toi de tes épreuves, des leçons que tu vas en tirer, puis tu sais, faut que tu sois tough, hein. On a parlé tantôt. Mm-hmm. Mes parents, j'ai été élevée vraiment à la dure comme ça. Puis ensuite de ça, la médication, j'ai eu des épreuves dans ma vie, mais j'ai jamais accepté de prendre d'antidépresseurs parce que j'avais peur qu'on joue avec ma chimie du cerveau, puis j'ai toujours eu peur de ça. Je me disais qu'avec le sport, j'allais m'en sortir avec du recul. Mais cette fois-ci, force était d'admettre que j'avais besoin d'un soutien. J'avais tellement de rage. J'avais beaucoup de...
De la peine aussi, j'imagine.
J'avais de la peine à l'intérieur de moi, de la frustration, une certaine culpabilité. Je me demandais si j'avais bien fait avec ma mère dans ses dernières volontés. Ma relation avec elle aussi, hein, quand nos parents partent, il y a des choses des fois qu'on réalise. Quand on est mère aussi, même encore aujourd'hui, je me dis, ah, ouais, ma mère, c'est vrai que... Oui, ben là, je comprends là, que d'être mère, des fois, on perd patience ou on est intransigeant, puis on veut le meilleur pour notre enfant, puis on le fait avec tout le cœur du monde, mais des fois, c'est peut-être pas la bonne approche à avoir. Donc, c'est ça, beaucoup de mixed emotions, hein, beaucoup d'émotions qui se sont... Puis là, à travers tout ça, je devais m'occuper de la succession. C'est moi qui étais exécutrice testamentaire, m'occuper de mon frère, m'occuper de mon petit garçon aussi, qui commençait la première année. Hein, il y a pas 20 ans, il y avait seulement 6 ans. Donc, ça a été épreuve par-dessus épreuve, défi par-dessus défi. Puis,
médication,
j'ai commencé...
Oui. Je vais revenir là-dessus. Pour vous, c'est temporaire ou si c'est quelque chose que vous dites, là, c'est pas, j'en ai besoin?
Ben, moi, je pensais pouvoir arrêter, là, vu que ça va mieux et tout ça, mais ma médecin m'a demandé de faire une année complète, juste pour essayer d'établir, parce que ça a été très difficile de trouver la bonne. Au début, j'ai commencé avec, je sais pas si vous connaissez ça un peu, mais la sertraline, qui m'endormait sans bon sens, jour et nuit. Je dormais pas la nuit, mais je dormais le jour. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'insomnie. Fait qu'après ça, on m'a donné un médicament pour mieux dormir. Mais quand je prenais ça, ça me prenait 3 heures le matin. Vous auriez pas pu prendre ça pour vous le réveiller à 3 heures du matin, là. J'avais de la misère comme un bon 3 heures où j'étais dans le cirage, là. Donc, ça, c'est tout récent. J'ai arrêté peut-être il y a un mois de prendre des pilules pour dormir. Mon anxiété, aussitôt que j'ai quitté mon emploi, en juin dernier, il y a une grande partie d'anxiété qui s'est déposée, qui s'est assouplie.
À quel moment vous êtes dit, c'est pas on voit pas ça dans une journée là, mais je pense que je redécolle.
Ah, ça c'est une bonne question. Peut-être un matin que je me suis réveillée puis j'étais moins lourde, les épaules moins lourdes, moins de vagues à l'âme, moins l'envie de pleurer quand je pensais à mes parents, avec plus d'espoir puis me dire bon, là ils sont corrects. On dirait que ça a quasiment pris une année pour ma mère là, je vous dirais quasiment jour pour jour. J'ai senti un détachement quand ça a fait un an, les 4 saisons étaient passées, puis je l'ai senti qu'elle était bien. Était comme bien où est-ce qu'elle était. Les urnes de mes 2 parents sont toujours à la maison, mais c'est comme si j'ai réussi à faire un certain détachement, un certain lâcher-prise, puis à me dire, regarde, ils m'ont donné tellement un beau coffre à outils, sers-toi de ça, puis il faut regarder en avant. La vie est courte, là.
Et puisque la vie est courte, vous avez envie d'en faire quoi de votre vie maintenant?
Là, je m'enligne pour une année sabbatique. Okay. Je ne l'ai pas encore annoncé nulle part. Alors, vous êtes le premier à qui j'en parle publiquement. Donc, à partir du mois de septembre, je veux me permettre une année sabbatique, continuer à prendre soin de moi, prendre soin de mon fils. Et aussi, je veux m'impliquer bénévolement parce que je ne vais pas rester à rien faire. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis, je me rends compte que le don de soi, pour moi, c'est une valeur très, très importante. Alors, je veux m'impliquer dans 4 organismes différents de la Rive-Sud. J'habite maintenant Longueuil. Donc, 4... Alors, j'ai des CHSLD tout près de chez moi. J'ai une école avec des personnes, des jeunes enfants handicapés. Je veux aller faire du bénévolat aussi pour les gens en fin de vie parce que je pense que mon expérience avec mes 2 parents peuvent peut-être servir à quelqu'un. J'aime beaucoup les nouveau-nés aussi, puis les enfants. Donc, c'est les personnes âgées en fin de vie, les nouveau-nés, les personnes...
Toutes les générations.
Ben, toutes les générations, puis toutes les personnes peut-être vulnérables aussi. Ouais. J'aimerais pouvoir travailler davantage avec le public là, à partir de septembre 2024. Donc, je vais prendre toute cette année-là pour essayer de voir, m'immerger, plonger dans tous ces environnements-là pour voir qu'est-ce que je vais garder comme bénévole et qu'est-ce que je pourrais faire comme formation pour aller m'impliquer, là, vraiment avoir un travail à temps plein avec ces gens-là.
Annie Pelletier, merci beaucoup d'être venue ce matin.
Merci, M. Arcan.
Annie Pelletier.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Vous avez été nombreux à m'écrire avec tous ces reportages des derniers jours concernant le retour de la COVID. La COVID n'a pas vraiment disparu, mais arrive donc un nouveau variant, Eris. Arrive également une hausse de cas dans certains pays. Puis des gens se sont évidemment inquiétés. Qu'est-ce qu'on fait si c'est ça l'été, partir de l'automne, partir de l'hiver, comment on doit se comporter? Dr. Carl Weiss est avec nous ce matin. Dr. Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
Êtes-vous inquiet de ce variant, là, Eris? Est-ce que les gens doivent aller se faire vacciner? En gros, là, vous pensez quoi de la situation?
Ben, vous me connaissez, alors je suis pas inquiet. D'abord, parce que c'est pas vraiment un variant, c'est un sous-variant. Remettons les choses en perspective, c'est Omicron. Donc, Omicron est là depuis maintenant 2021, depuis octobre 2021. Et ce qu'on voit, c'est des variations d'Omicron qu'on appelle des sous-variants. Donc, des choses qui ne changent pas tellement d'une fois à l'autre. Alors, c'était normal et c'est normal qu'on voit des sous-variants émerger à l'échelle planétaire. C'est un sous-variant qui a émergé probablement au mois de février, mars de cette année, probablement en Indonésie, qui s'est répandu sur la planète après et qui semble être le variant ou le sous-variant dominant actuellement. Alors, plusieurs choses qu'on doit savoir de Eris, puisqu'on l'a appelé comme ça en Grande-Bretagne. Premièrement, c'est un variant qui ne rend pas les gens très malades. C'est-à-dire, plutôt que ce qu'on voyait au début de la COVID, la fièvre, l'essoufflement, la perte d'odorat, etc., on voit beaucoup plus maintenant des symptômes de type de rhume. C'est-à-dire, les gens ont vraiment un rhume, les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, le rhume, le nez qui coule, la congestion, mais des symptômes qui sont, somme toute, très, je vous dirais, bénins. Deuxièmement, la maladie sévère en tant que telle, on n'en voit quasiment plus. Et si on la voit, c'est dans des gens qui ont tellement d'autres facteurs de risque que souvent la COVID est mêlée à 15 ou 20 autres diagnostics médicaux. Donc, des gens qu'on, ce qu'on voyait là, des gens dans la soixantaine, des gens 70 ans, relativement en santé, très malades, on ne voit plus ça du tout. En dépit du fait, et puis vous le voyez, que tout le monde entier voyage, l'activité de la vie est revenue à la normale, on a des festivals, on a des choses intenses. Donc, en dépit de tout ça, il n'y a aucun impact au point de vue sociétal. Et je pense que les gens maintenant doivent comprendre que la COVID, ça va être un impact non plus sociétal, mais un impact individuel. C'est-à-dire que pour certaines personnes, malheureusement à risque, ça peut être problématique, mais pour l'immense majorité des gens, il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes particuliers. Ne pas oublier non plus que l'immense majorité des Québécois a été vacciné. Donc les gens ont eu au moins deux, voire même beaucoup trois vaccins. L'immense majorité des Québécois a déjà fait la COVID. Donc le fait d'avoir été vacciné au moins deux fois et d'avoir fait la COVID donne pour l'immense majorité des gens ce qu'on appelle une immunité hybride qui ne les protégera pas contre le fait d'attraper la COVID, mais qui va les protéger contre le fait d'avoir une maladie sévère, et c'est ça qui est important.
Je voyais ce matin Radio-Canada qui publie des données du journal de l'Association médicale canadienne, justement là sur l'immunité qui découle, vous l'avez appelé hybride, là de l'infection ou de la vaccination. Ça veut dire que les gens ont déjà une base de protection importante. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une nouvelle dose de vaccin à partir de ça?
Alors, si vous regardez l'ensemble des données, si vous regardez l'aspect populationnel, donc les gens qui ont moins de 65 ans, et vous savez, on dit 65, mais c'est très arbitraire parce qu'il y a des gens de 68 ans qui sont en très bonne santé. Donc, on va dire que les gens qui ont 65 ans ou autour de cet âge-là, qui ont eu déjà trois doses de vaccin, qui ont déjà fait la COVID, ces gens-là, à l'étape actuelle, ont peu de bénéfices à aller chercher un vaccin pour eux. Ça se peut qu'ils rattrapent la COVID, mais ils seront pas très malades. Donc, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'un vaccin dans le futur, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? Je ne le sais pas, possiblement. Mais le bénéfice à court terme pour ces gens-là d'aller chercher une dose supplémentaire du vaccin est relativement faible, à moins qu'ils aient autour d'eux des gens qui, eux, sont très à risque d'avoir la COVID, c'est-à-dire si vous avez des parents, des conjoints, des personnes âgées qui, s'ils font la COVID, peuvent être très malades. Vous le faites pas pour vous, finalement, vous le ferez pour eux. Mais pour vous-même, pour ces gens-là, le bénéfice est actuellement, je vous dirais, marginal. Là où l'utilité du vaccin peut être, je vous dirais, plus importante, c'est les personnes qui sont beaucoup plus âgées, les gens qui vivent dans les CHSLD, des gens qui ont des problèmes de santé importants, par exemple au point de vue cardiaque ou respiratoire, où la COVID pourrait être quelque chose qui entraînerait une hospitalisation. Donc chez ces gens-là, les gens qui ont des cancers, par exemple, et qui sont en traitement de chimiothérapie intensive, pourraient bénéficier d'un vaccin supplémentaire, même si on sait malheureusement que même si on leur donne beaucoup de vaccins à ces gens-là, ils répondent moins bien que la population générale. Donc, mon avis personnel, puis je pense qu'il y a quand même plusieurs gens qui le partagent à l'échelle planétaire, c'est que la campagne de vaccination qu'on a connue durant les phases chaudes de la pandémie, c'est aujourd'hui terminé. C'est-à-dire que la majorité des gens n'ont plus besoin de vaccins pour un certainement à court ou moyen terme. Est-ce que les gens vont rattraper la COVID? Oui. Est-ce qu'on va avoir des éclosions cet automne? Certainement, dans les écoles, dans les CHSLD, je pense qu'on peut le prévoir, mais il n'y aura pas d'impact, à mon sens, qui sera sociétal à l'échelle planétaire. On ne retournera pas à ce qu'on a vécu en 2020-2021.
Une question soulevée par une auditrice qui travaille dans le réseau de la santé, plus particulièrement dans un centre de soins de longue durée. Est-ce qu'on doit avoir retenu certaines leçons, justement, de ces différentes vagues de COVID? Et comment on doit préparer un CHSLD là, en vue de l'automne et de l'hiver qui vient?
Alors, est-ce qu'on doit avoir retenu des leçons? Certainement. Je pense que la première chose qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le port du masque, même si on est devenu beaucoup plus, on va dire, aujourd'hui libéral sur le port du masque à l'échelle sociétale, et là, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est une très bonne chose. J'ai été un des premiers à dire qu'il fallait enlever les masques, par exemple, dans les avions. Par contre, dans tout ce qui touche les services de santé où les gens sont à risque, le port du masque est, à mon sens, encore utile, pas juste pour la COVID, mais pour aussi les autres infections respiratoires. N'oubliez pas que là, on va revenir à une année où il y a des virus comme la grippe, l'influenza, le virus respiratoire syncytial, le RSV, vont revenir parce que ces virus avaient complètement disparu avec l'arrivée de la COVID. Là, la COVID, qui est devenue elle aussi endémique, va partager, si vous voulez, le marché avec ces autres virus. Donc, le port du masque, donc des mesures d'hygiène de base, sont certainement quelque chose qui peut être utile. La deuxième chose, c'est la capacité à tester les gens rapidement. Ce qu'on a bien fait durant cette pandémie, les gens ont appris à s'auto-tester. Il semblerait, par exemple, qu'on a encore beaucoup de tests en réserve au Canada, toutes sortes de régions où on a des millions de tests en réserve, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Ben, peut-être qu'on devrait les distribuer gratuitement avant leur date de péremption au CHSLD pour que les gens puissent tester rapidement. Si quelqu'un tombe malade, au moins identifier les premiers cas de COVID pour pas qu'il y ait une éclosion ou une traînée de poudre dans un environnement qui est quand même à risque. Alors ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le gros bon sens de tout le monde, c'est-à-dire que si vous êtes un visiteur d'un CHSLD, ben, c'est important peut-être de ne pas y aller si vous êtes malade, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas très malade en 10 ans, je vous ai dit, le nouveau sous-variant, ça donne le rhume, alors peut-être vous allez dire bon, c'est pas bien grave, et probablement que vous avez raison, c'est pas bien grave pour vous, mais si vous allez visiter votre mère ou votre père qui elle ou lui a 80 ans, 90 ans, est fragile et a des gens fragiles autour, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Donc il y a des aspects là de port de masque, de dépistage fréquent, d'être alerte à une potentielle éclosion, du gros bon sens de la part des visiteurs. Je pense qu'un ensemble de mesures comme ça, et en plus, comme j'ai dit plus tôt, si on vaccine les gens dans les CHSLD qui sont très à risque, c'est un ensemble de facteurs qui va réduire l'impact potentiel de la COVID.
Je me souviens, il y a plusieurs mois, lors de nos échanges, vous disiez, il faut que les gens s'habituent à la présence de la COVID, qu'il y aura des phases plus calmes, il y aura des phases avec la présence d'un variant ou, comme vous dites, un sous-variant, et que ça va faire partie avec l'ensemble des maladies respiratoires potentielles ou des virus de l'environnement dans lequel on va se retrouver.
Tout à fait. Alors, la COVID est maintenant de plus en plus un virus qui tend à devenir respiratoire cyclique. Hein. Regardez ce qui est arrivé. Vous savez, les virus comme la grippe, le RSV, on n'en a pas beaucoup durant l'été. On commence la saison à partir du retour à l'école, donc à l'automne. Souvent, autour du mois de novembre, décembre, ça commence à monter de façon importante. La période des fêtes, c'est un peu la zone de transmission intense de ces virus-là, puis le retour après, durant l'hiver. Et après ça, ça disparaît vers la fin du printemps. La COVID n'avait pas ce cycle au début. On voyait que la COVID, toute l'année, on a eu des éclosions de COVID en plein été, mais on n'a pas du tout ça maintenant. Donc la COVID est redevenue, si vous voulez, un virus comme les autres, qui va probablement avoir une saisonnalité, c'est-à-dire qu'on va en voir beaucoup plus à l'automne, à l'hiver, et beaucoup moins au printemps, en été. À ce moment-là, on va devoir vivre avec ce virus-là parce que ce virus-là ne disparaîtra pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas d'immunité collective. Vous vous rappelez, au début, on disait si on attrape la COVID ou si on est vacciné, ben, on sera protégé. On donnait l'exemple de la rougeole, ben, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire la COVID, ce n'est pas la rougeole, ça ressemble plus à la grippe. C'est-à-dire vous pourriez faire la grippe 10 fois dans votre vie comme vous allez faire la COVID 10 fois dans votre vie. La deuxième chose, c'est que la COVID, évidemment, il y a des réservoirs animaux qui existent. On sait par exemple qu'il y a les félins, les chevreuils qui peuvent porter la COVID. Donc, comme il y a des réservoirs animaux, c'est un virus qui ne disparaîtra pas de la planète. Donc, on est pris à vivre avec ce virus-là. Il faut apprendre à vivre. Le fait que maintenant, l'immense majorité de la planète a été vaccinée, a fait la maladie, et on le voit, on voit qu'on est revenu à un retour normal de la vie et on n'a plus du tout l'impact de ce virus-là sur notre système de santé. Donc, c'est le meilleur exemple que la COVID d'aujourd'hui n'est plus la COVID du début et qu'on est passé d'une phase d'endémie à une phase de pandémie. Actuellement, nous sommes vraiment dans cette espèce d'endémie. La pandémie, c'est derrière nous. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, il faut revenir à une vie normale. Il faut apprendre à vivre avec. Et puis, comme on vit avec l'influenza, comme on vit avec le RSV, je pense que la meilleure chose qu'on a apprise de tout ça, c'est qu'il faut attraper la COVID, soit quand on est relativement jeune et notre système immunitaire est encore en bonne santé, ou bien quand on a été vacciné plusieurs fois et donc l'impact de la maladie à ce moment-là va être très limité.
Toujours intéressant. Merci beaucoup, Dr Weiss.
Ça fait plaisir.
Au revoir, docteur. Alors, vous, c'est Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladie.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Est-ce que vous avez encore les moyens d'aller au restaurant? Et l'idée, c'est pas de prétendre que les prix sont élevés de façon injustifiée. On comprend, coût de la bouffe, pénurie de main-d'œuvre qui a amené des augmentations, difficulté donc de recrutement. Mais il y a une réalité pour le consommateur. Et beaucoup de gens m'écrivent en disant, écoutez, là, on fait pourtant de bons revenus, mais ça coûte cher et de plus en plus cher. La presse, ce matin, soulève la question et note des changements dans les comportements des consommateurs, des gens qui, plutôt que d'aller luncher, vont aller prendre le petit déjeuner parce que ça coûte moins cher. Richard Scofield est avec nous, président et chef de la direction du groupe Saint-Hubert. Monsieur Scofield, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Qu'est-ce que vous observez dans les restaurants de votre chaîne? Est-ce que les gens changent leurs habitudes, viennent moins souvent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Ben, je pense que c'est une multitude de choses qui se passent en ce moment. Oui, il y a des clients qui viennent un peu moins souvent. Il y a des clients aussi qui vont opter pour prendre des commandes pour emporter ou livraison à la place. Nous, qu'est-ce qui est un peu plus difficile, c'est quoi la référence? C'est-tu avant la pandémie? C'est-tu en 2022 quand tout a réouvert? C'est sur la température. Donc, oui, il y a beaucoup de facteurs qui nous impactent en ce moment. Puis, effectivement, les prix, on entend parler.
OK. On prend un exemple pour que ça soit clair. Moi, je vais chez Saint-Hubert, là, puis je prends vous parce que vous êtes là, mais je pourrais prendre une autre bannière. Là. Si je vais là un vendredi soir, une famille de quatre, là, deux adultes, deux enfants, je prends deux poitrines de poulet, mettons. Là. Puis je prends pas d'apéro, puis bon. Je prends un verre de vin avec ma conjointe, puis les enfants, bon, deux plats, mettons, je sais pas, deux cuisses, un dessert, un café. Ça me coûte combien?
Je vais faire des calculs rapides, mais ça va venir près du 100-120 $.
Avant taxe ou après taxe?
Moi, je vais dire avant taxe.
Ah, puis avant pour boire?
Et avant pour boire.
C'est cher.
C'est le marché aujourd'hui.
Je dis pas que c'est pas justifié, là, mais il y a une réalité, par exemple. C'est qu'une famille de quatre pour aller chez Saint-Hubert un vendredi soir, dépenser 140-130 $, ils vont y penser deux fois. Là.
Je comprends. Et c'est pour ça que on a toujours des offres durant différents plages horaires, différentes journées. Je sais que c'est pas toujours idéal, mais on essaie quand même d'avoir des forfaits de valeur. Puis oui, il existe des forfaits comme la table d'hôte, comme les forfaits pour les enfants où ce que le breuvage est inclus. Faut regarder le menu, faut poser des questions, puis faut regarder ce qu'on a des spéciaux. Mais en tout temps, il y a quand même des items qu'on peut avoir une meilleure valeur que d'autres.
Avec votre expérience, est-ce que ce qu'on vit actuellement, c'est passager? Ou si, au contraire, les gens doivent penser que dans les prochains mois, les prochaines, les prochaines années, c'est un peu fort, là, mais que les prix seront ça parce que la main-d'œuvre coûte plus cher, l'achat de bouffe, c'est plus cher. Moi, j'arrive d'Europe, puis je constate qu'il y a des endroits où c'est beaucoup moins cher. Là, le café, ça coûte presque rien. La bière, ça coûte presque rien. J'ai de la misère à comprendre pourquoi c'est si cher ici.
Mais je pense que tout le monde, on le vit, puis on peut prendre l'épicerie comme exemple. On voit l'inflation qui continue dans l'achat de nos épiceries, puis tout le monde le vit. Mais nous, comme restaurateurs, on vit la même chose. C'est pas farfelu pour dire qu'on ouvre des contrats, puis c'est 25-30% d'augmentation. Les salaires, vous avez fait mention, un, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a les augmentations de salaires et la pression d'avoir assez de personnel pour faire le travail. Des salaires des denrées, mais toutes les autres lignes sur l'état financier sont en augmentation importante. Est-ce que c'est passagère? Je pense qu'on est dans un moment où c'est au pic, mais est-ce que ça va baisser demain matin? Non. Est-ce que ça va stabiliser à moyen terme? Je pense que oui. On commence à voir certaines lueurs d'espoir pour certains aliments qui se stabilisent et tendent vers la baisse, qui va nous permettre de protéger de hausses futures à moyen terme.
Parfait. Merci beaucoup, M. Scofield. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Richard Scofield est le président et chef de la direction du groupe Saint-Hubert.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On va parler maintenant un peu de ces données sur l'inflation qu'on a obtenues hier. Il y a un certain nombre de constats qu'on peut faire. D'abord, c'est que l'inflation au Québec, c'est l'endroit qui est la hausse est la plus forte. On est numéro un au Canada pour ce qui est de l'inflation. Et ça fait déjà un certain nombre de mois. Et il y a le volet alimentaire, moi, qui m'intéresse. Il y a le volet, évidemment, du supermarché, le panier d'épicerie qu'on paie, les produits que vous achetez chez des maraîchers, et évidemment, l'impact sur la restauration. Pascal Thériault est agronome et économiste à l'Université McGill. Il est avec nous ce matin. Monsieur Thériault, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces dernières données sur l'inflation là pour le Québec?
Bien, pour le Québec, c'est quand même surprenant qu'on soit parmi les endroits au Canada où est-ce que l'inflation globale est la plus élevée, parce que le rapport de la Statistique Canada mentionnait, entre autres, que c'est l'Alberta qui a vécu la plus grande hausse du coût d'énergie, puis on sait que normalement, le coût de l'énergie est une composante importante de l'inflation globale.
OK, mais une fois qu'on fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut ajouter?
Bien, c'est encore le prix des aliments qui nous fait mal actuellement, là. On regarde, c'est un peu moins pire que c'était, la hausse est moins importante, mais pour le consommateur... On va à l'épicerie aujourd'hui, on va à l'épicerie demain ou même la semaine prochaine, ça va faire encore mal. C'est ça qui est un problème actuellement parce que, comme consommateur, on se trouve un peu pris de tous les côtés. Là, on sait qu'une partie importante de la hausse qu'on a vécue sur un an, c'est la hausse du coût des hypothèques.
Quand vous regardez les données sur le prix des aliments, je voyais le tableau dans la presse ce matin, on sait tous qu'il y a eu une hausse importante en février. Il semble, d'après ce que je lis, ça s'est relativement stabilisé. Avez-vous l'impression qu'on s'en va vers une tendance à la baisse? Est-ce qu'il y a encore des hausses importantes à venir? Quelle lecture vous faites?
Bien, on est encore dans un équilibre très fragile. Quand on regarde le prix de l'inflation des aliments, on voit que tout ce qui est transformé subit encore de très fortes hausses relativement parlant. Puis c'est parce que, ben oui, le coût des matières premières augmente, mais le coût de la main-d'œuvre continue à augmenter. Le coût de l'énergie, encore énormément de pression quand on parle de contexte mondial, sur le coût de l'énergie. Donc, plus on transforme un aliment, plus il va coûter cher à produire et plus on va le vendre aux consommateurs. Donc ça, c'est une partie. De l'autre côté, on regarde des aliments frais. Ben au Québec, on a beaucoup parlé. On a une très mauvaise récolte de fruits et légumes cette année à cause de la météo. Mais il faut se souvenir qu'en février dernier, ben c'est en Californie qu'on l'a vécu, cette inondation-là, qui faisait monter le prix de la laitue. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il fait mauvais là qu'il va faire mauvais plus tard, mais ça ne veut pas dire non plus que le prix des fruits et légumes va baisser.
Bon, ben justement, poussons un peu la réflexion avec, on le voit, les changements climatiques, les phénomènes de météo extrême qu'on retrouve, que ce soit des vous parliez par exemple de la Californie durant le mois de janvier, une récolte, disons, ordinaire ici au Québec peut-être cet été, là, on va devoir s'habituer à payer cher pour des produits frais.
On va devoir s'habituer à payer plus cher. Il y a deux choses qu'on peut faire. Actuellement, on sait qu'on a spécialisé des centres de production parce que, bon, c'était plus efficace de le faire, là. c'est 3 milliards par année de fruits et légumes qui rentrent de la Californie au Québec. Puis là, on sait que si ça va mal en Californie, ben ça affecte un très grand nombre de fruits et légumes. Donc, est-ce qu'on produit dans plus d'endroits, un peu moins efficaces, qui vont coûter plus cher, ou on prend le risque que ces changements climatiques vont aller en se calmant, ce qui me surprendrait,
ouais,
et que les prix vont se stabiliser dans le temps?
Donc, vous dites, est-ce qu'on prend le risque de la dépendance face à un fournisseur,
là? Ben oui, face à un fournisseur, quelques grands fournisseurs.
Ouais,
un
ouais,
peu comme nous, consommateurs, on fait avec les distributeurs alimentaires, là.
Les restaurants, comment vous faites l'évaluation de ça? Parce que beaucoup de gens regardent les prix qui sont affichés puis qui se disent, mais ça n'a pas de bon sens, c'est des augmentations là qui sont chères. Et je parle pas des restaurants haut de gamme, là, mais je vous parle de restaurants bannières. J'avais le président de Saint-Hubert qui disait que ça coûtait pour 4 personnes un repas régulier, standard, là, 120, 130, 140 $.
Ben, quand on regarde la restauration, normalement, le prix d'une assiette est séparé en 3. Là. Il y a le coût des aliments qui est environ le tiers. Ça. Le prix des aliments augmente, on le sait. Il y a le coût de la main-d'œuvre, puis il y a le coût des installations. Le coût de la main-d'œuvre est en augmentation aussi. Moi, ce que je vois au restaurant, c'est malheureux, mais c'est tout à fait normal avec l'ensemble de la situation dans laquelle on vit actuellement. Le coût de tout augmente, donc le coût des aliments au restaurant va augmenter.
Dernière question. Avez-vous l'impression, puis là, on spécule, mais quand même, que le consommateur va ajuster ses choix, c'est-à-dire va renoncer, par exemple, à des plats très préparés d'avance, va cuisiner davantage, va, autrement dit, gérer de façon différente son budget alimentaire?
Bien, c'est des habitudes qui sont plus longues à changer, mais je pense que le consommateur s'en va vers là. Les familles doivent faire des choix. On sait qu'on entend de plus en plus parler du délaissement des restaurants à cause du coût. Les gens voyagent moins. Les gens font de plus en plus attention parce qu'il y a de moins en moins d'argent disponible. Puis, évidemment que pendant longtemps, on n'a pas eu à se poser la question parce que le Canada demeure un des pays où ça coûte le moins cher se nourrir. Mais là, on voit que quand même, ça coûte de plus en plus cher. Donc, on va commencer à investir du temps, ce qu'on ne faisait plus, pour acheter des ingrédients et préparer nos aliments à la place d'acheter des aliments qui sont déjà préparés ou partiellement préparés.
Merci beaucoup, M. Thériault.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Pascal Thériault est agronome et économiste à l'Université McGill.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
La ville de Gatineau a rappelé dans une missive au début de la semaine à tous ses citoyens, dans le cadre de ce qu'ils appellent, vous allez comprendre pourquoi, la miaou, que les chats à Gatineau qui sont à l'extérieur doivent être tenus en laisse, tout comme les chiens. Il y a des gens qui ont sursauté, qui n'étaient pas au courant. J'en parlais tantôt avec des membres de l'équipe. Est-ce que c'est une bonne idée? On sait qu'on a cette espèce de réflexe de dire à un chat, c'est pas grave, on ouvre la porte, il sort, puis il va revenir de toute façon. Docteur Raymond Place est avec nous, qui est vétérinaire. Docteur Place, bonjour.
Salut, Paul.
Est-ce qu'on ouvre la porte, on laisse sortir le chat, puis on se dit, il revient, ou c'est mieux de le garder en laisse?
Bien, le vétérinaire va te dire que c'est mieux de le garder en laisse absolument, parce que, tu sais, quand... Tu sais, je laisserai pas aller mon chien, va te promener, là, puis tu reviendras, mais ça te tente. Pourquoi que je ferais pas ça? Ben, il y a deux raisons. La raison, c'est que, d'une part, ça se peut que mes voisins soient pas d'accord, mais d'autre part, ça se peut qu'ils se fassent frapper, ça se peut qu'ils se fassent attaquer, ça se peut qu'ils se perdent. Tu comprends? Il y a des risques associés à pas s'occuper de où notre animal est. Tu sais, je peux pas penser que je sais pas où mon chien en ce moment, tu sais. Fait que le chat, c'est comme ça en pire, là. Tu sais, le chat se promène, puis le risque qu'il y ait un accident est élevé. Mais en plus de ça, c'est que souvent, les chats, ils font pas que ça, là, tu sais. Moi, j'en ai un chat, là, qui vient faire ses besoins, puis vient marquer son territoire dans ma fenêtre du sol, tu sais. J'irais pas jusqu'à dire que je fais la vague, là, quand je ramasse les mauvaises herbes. Fait que il y a une question de responsabilité sociale aussi. Puis au bout du compte, les gens, ça leur dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'en aperçoivent pas. Là, tu sais, moi, si mon chien il est libre dans ma cour, puis personne le sait, ben il est libre, il est pas en laisse, donc personne se plaint. Tu sais, c'est quoi dans le fond l'écart, Paul, entre la tolérance sociale qui, à mon avis, est en train de diminuer pour tout et pour rien. Puis après ça, ben en même temps, la responsabilité sociale, c'est que t'es un chat, tu t'en occupes. S'il va faire son caca chez le voisin, c'est peut-être ta faute à toi, là. Fait que moi, je suis-tu intolérant à trouver que ça n'a pas de sens qu'il vienne faire ses besoins dans ma fenêtre, ou est-ce que je suis rendu intolérant? Mais à un moment donné, là, quand il y a trop de situations comme ça, ben là, les règlements, en passant, qu'il n'y ait pas un nouveau règlement, là, puis c'est pas juste la ville de Gatineau, là, le règlement, il est à plein d'endroits. C'est juste que socialement, on le tolère.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai un chien, puis j'ai un chat errant qui se promène dans le coin, puis le chien devient énervé, puis le chat, lui, est lousse, puis tu te dis, mais ce chat-là va se faire frapper par une auto parce qu'il... ou encore, il va... C'est comme si on dit, un chien, ça, c'est normal, il faut avoir une laisse, on le promène, puis c'est... Bon. Mais le chat, puis on faisait le tour, je te dis, ce matin, là, plein de gens qui disent, ben, c'est quoi le règlement? C'est pas grave, le chat, il se promène, puis il revient, puis il va pas loin, puis il dérange pas personne.
Écoute, Paul, il y a des chats là, qui ont trois propriétaires. Finalement, il habite pas une adresse, puis il habite à plein d'adresses, tu comprends? Il fait qu'il se promène, puis là, on se demande, là, je donne presque rien, docteur, là, je comprends pas comment ça qu'il maigrit pas, quand c'est pas la tête, là. Au 12 Saint-Laurent, il nourrit, lui. Fait que le chat, lui, se promène, puis il fait sa tournée le matin, puis effectivement, il y a le concept des chats errants, c'est-à-dire qu'il y a des chats qui appartiennent à personne, puis il y a des chats qui appartiennent à tout le monde, puis il y a des chats qui appartiennent à quelqu'un. Puis là, ben, ils sont tous mélangés. Là, il n'y a pas personne qui va dire, ah, regardons ça, il y a 10 chiens errants là-bas. Fait que c'est pour ça aussi, socialement, tu sais, le chat, c'est un animal bien différent du chien. Fait que d'un point de vue, là, de groupe, on regarde tout ça, puis on se dit, ben, il y a un chat dehors. Ah, il y a un chat dehors. Tu sais, personne va sortir, comment ça qu'il y a un chat dehors, là. Moi, si je vois un chien se promener, là, sur le boulevard La Vérendrye à trois voies, là, je vais dire, oups, c'est quelque chose qui marche pas, là. Fait que là, on va appeler la patrouille, on va dire, qu'est-ce qui se passe? On voit un chat dehors, là, il se dit qu'il n'y a pas grand monde qui va réagir, parce qu'il y en a qui appartiennent à personne à cause du concept des chats errants. Il y a toute une éducation à faire, mais si on a un chat, ben il devrait pas aller dehors. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne demande pas aux gens de la partager. Mais il y a un risque associé à ça. Moi, j'ai des enfants, évidemment, ils sont rendus vieux. Quand ils étaient jeunes, je voulais savoir ils étaient où. Mon chien, je veux savoir il est où. Puis si j'avais un chat, moi, j'étais allergique au chat, un vétérinaire allergique au chat, mais si j'avais un chat, il se promènerait pas libre dans ma ville. Là. C'est pas vrai.
Merci beaucoup, Raymond. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Docteur Raymond Place, qui est vétérinaire à l'hôpital vétérinaire de La Salle.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On parlait de météo avec notre ami Gilles Brien. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Paul.
C'est vrai que c'est humide, là, puis aujourd'hui en particulier.
L'humidité, on a eu tout l'été. C'était l'été de tous les dangers, tous les phénomènes, toutes les alertes météo. Écoute, le smog, les tornades, les orages violents, n'en jetez plus. La cour est pleine. Et pleine de pluie, surtout, hein, parce que Montréal a connu des records, là, juillet, 212 mm de pluie. Puis depuis le 1er juin, 340 mm de pluie. On n'a jamais vu ça depuis 140 ans, là. Depuis qu'on prend des données météo à l'Université McGill, c'est la première fois qu'on voit un été aussi pluvieux. Québec, Sherbrooke, la même chose. Alors, ça se poursuit, ça reste humide, le sol est tellement gorgé d'humidité, aussitôt que le soleil sort, beaucoup d'évaporation, ça crée des nuages, ça cache le soleil beaucoup. La seule avantage, c'est les minimums de la nuit, hein. Cet été, c'était très doux, là. La nuit, des balades, le soir, température était de 4-5 degrés au-dessus des normales, à peu près tous les jours. Ce qui a manqué cet été, c'est des périodes de 3-4 jours de temps sec, à tous les 2-3 jours, on avait des orages violents, ou un creux massif avec un front très brutal. Ça va mettre fin à l'humidité, mais surtout, on va voir des températures plus fraîches. Là, c'est un creux vraiment très vigoureux. Alors, attendez-vous, là, des minimums de 15-16 degrés dans la région de Montréal. On n'a pas vu ça depuis le 17 juin.
Donc, ça veut dire que, OK, il va pleuvoir, l'humidité, et il va y avoir comme une espèce de cassure dans les températures.
Ah oui, la cassure va se faire parce que là, depuis à peu près 3 semaines, on a des systèmes météo organisés comme en automne, là, des creux vraiment très forts, très structurés, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Cet été, l'humidex, on n'a pas eu 40, là, vraiment, peut-être une fois dans l'été. C'est un été où on n'a pas eu aucune canicule. Il faut remonter au 1er juin pour avoir trois jours de suite avec 30 degrés. Donc, on a évité un peu la catastrophe qui s'est passée aux États-Unis. On sait que la Californie, la Floride, l'Arkansas, là, ces régions-là ont connu un été épouvantable. C'était l'été le plus chaud, en fait, le mois de juillet, le plus chaud partout dans le monde. Puis ici au Québec, ben, on semble avoir évité le pire, mais quand même, pas des bottes de pluie puis le parapluie cet été. Là, très
sûr.
Populaire.
Merci Gilles. Bonne journée. Gilles Briec, qui est météorologue.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.